Le sujet de cette semaine sera principalement centré sur la Haftara. Et c'est un texte qui est particulièrement riche d'enseignements. Et nous avons beaucoup travaillé les semaines précédentes sur la Torah elle-même. Là, laissons un peu la place à la Haftara. Voilà un texte du prophète Yéhézkiel qui rappelle la sortie d'Égypte, tout en évoquant la future rédemption messianique. En fait, la leçon principale de ce texte, c'est que les enfants d'Israël n'ont rien à espérer de l'Égypte, qui, orgueilleuse comme un crocodile, est en fait fragile comme un roseau. Il faut savoir que le crocodile, c'est le roi du fleuve, du Nil, un peu comme le lion, c'est le roi des animaux. Et évidemment, un roseau, si on s'appuie dessus, on ne peut que se blesser là-bas. Donc, la leçon principale de la Haftara, c'est que Israël doit ne pas accorder une confiance excessive aux autres grandes nations et notamment aux plus grandes puissances. L'Égypte, c'était une très grande puissance à l'époque. La Haftara nous annonce, c'est-à-dire Hachem nous annonce par la bouche de son prophète Yéhézkiel, qu'il va frapper de désolation le pays d'Égypte. Attention, nous ne sommes pas du tout à l'époque de Moshe Rabbeinu, là, hein, nous sommes bien, bien, bien longtemps après. Et c'est un point commun avec la paracha de la semaine qui décrit des plaies frappant Mitzrayim. Dans la paracha, on va entendre, Shabbat, les sept premières plaies qui ont frappé l'Égypte. Et la semaine suivante, dans la paracha Bo, eh bien, on aura les trois plaies suivantes. L'objectif des plaies que l'on va énumérer cette semaine, il était de démontrer à Pharaon la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce même genre de démonstration que va relayer la présente Haftara. Dans les deux textes, le Pharaon ne reconnaît pas la toute-puissance de Hachem. Et aussi, ces deux pharaons, celui qu'affronte Moshe et celui à l'époque de Yéhézkiel, vont être frappés afin que leurs yeux s'ouvrent enfin. Il s'agissait, par ces plaies, de refuser, de briser Pharaon qui refusait de reconnaître Dieu, lui-même se considérait investi d'un pouvoir quasi divin. Hachem lui dira, eh bien, par ceci, tu sauras que je suis. Ce qui se joue dans la paracha d'aujourd'hui, dans l'Haftara d'aujourd'hui, et dans sa paracha aussi d'ailleurs, ce n'est pas tant la libération des Hébreux. C'est une démonstration idéologique. Il s'agit de montrer que c'est Hachem qui est le Tout-Puissant. C'est pour ça d'ailleurs que les Khartoumim, les magiciens de Pharaon, ont été amenés à jouer un rôle majeur dans la confrontation entre Moshe et Pharaon. Les sept premières plaies de la Torah de cette semaine visaient à faire admettre aux Égyptiens que ce n'était pas une affaire de magie, que véritablement Dieu était le maître de la nature. Par contre, avec la paracha et la haftara de la semaine prochaine, eh bien, on aura, disons, la punition elle-même, la démonstration aura eu lieu, on va passer au châtiment divin. Ici, nous voyons le Nil comme un sujet d'orgueil pour l'Égypte. Avoir un fleuve comme le Nil, qui est un fleuve immense, avec un très grand débit, toute l'année, eh bien, c'était l'assurance de disposer de produits agricoles en abondance. Eh bien, le pharaon n'avait pas besoin de prier Hachem pour qu'il envoie la pluie. Le Nil lui fournissait de l'eau en permanence. Donc, le prophète va prophétiser que le pharaon et son armée seront écrasés par le roi de Babel. Intéressons-nous à cet extrait-là du livre de Yéhézkiel, cette Haftara, qui prophétise que l'Égypte sera conquise par Babylone. Et dans cette paracha, Moshe va ordonner à Aaron, conformément à l'ordre de Hachem, prends ton bâton, jette-le en face de Pharaon. Ce bâton sera un tanin. Ce mot tanin n'est pas traduit par Rabbi Eliaou Manque, alors que d'autres traducteurs utilisent les mots reptile ou crocodile. D'autres osent même les mots serpent de mer ou bien dragon, comme on trouve cela dans un lexique araméen du Vieux Testament publié à Boston à la fin du XVIIIe siècle. Donc bon, c'est pas un dragon, c'est pas un serpent de mer, mais crocodile, reptile, c'est une traduction que l'on peut utiliser. Cependant, cela pose un problème. On voit apparaître le mot tanine, mais lorsque Hachem a annoncé cette action, il y avait le mot nahash, serpent. Et donc, en parlant de serpent, il y avait une raison. Hachem faisait comprendre que tous les habitants de la terre entendront le cri de rage de l'Égypte lorsqu'elle sera abattue après les plaies, de même que toutes les créatures entendirent le sifflement au paradis lorsque le serpent fut destitué. Dans la suite du texte de la Haftara, il est dénommé Atanin Agadol, le grand crocodile. Cela traduit un changement de perspective. Il n'est plus question d'un miracle à accomplir pour convaincre Pharaon de la véracité de Hachem. Il s'agit de montrer à Pharaon que sa puissance n'est rien en comparaison de celle de Hachem. Et donc, il est comparé, Pharaon, au prédateur le plus puissant du Nil, mais c'est-à-dire qu'en même temps, il faut savoir que ce pharaon, comparé au crocodile, ça a une autre dimension, parce que le crocodile, c'était une idole égyptienne, dont la tête avait la forme d'une gueule de crocodile, justement, et que l'on appelait Sobek. Eh bien, plusieurs pharaons de la 13e dynastie, c'est-à-dire vers 1800 avant l'ère vulgaire, ont placé leur règne sous la protection de ce dieu crocodile, et ils choisissaient même le nom Sobek. Par exemple, l'un s'est appelé Sobek est satisfait. Sobek Hotep. Je prononce mal l'égyptien, mais c'est autre chose. Le miracle du bâton, transformé en tanine, envoie donc un subtil message à Pharaon. C'est la vanité des prétentions du Pharaon qui est soulignée par cette transformation. Moshe fait comprendre que son acte n'est pas un acte de magie. Il a attrapé le serpent par la queue et non par la tête, alors que les magiciens égyptiens, les fameux Khartoumim, eux, attrapaient le serpent par la gueule pour l'empêcher de mordre ou pour l'immobiliser. Donc déjà, voyant cela, on comprenait, le pharaon et les magiciens égyptiens ont compris qu'il se passait quelque chose d'un petit peu anormal, que ce magicien qui attrape le serpent par la queue risque d'être piqué. Mais il ne l'a pas été. Pire encore, pour eux, le bâton des Hébreux a avalé le bâton de tous ces magiciens, les différents bâtons des magiciens. Et bon, qu'un animal avale un autre animal, même s'il s'agit des fameuses vaches maigres qui avalent les vaches plus grasses, bon, à la limite, ça peut passer. Un animal mange un autre animal, même si c'est un animal qui mange plutôt des végétaux, c'est moins troublant que de voir un végétal, le bâton, le végétal, avaler des serpents. On se souvient que lorsque Yosef était en prison, le pharaon avait rêvé de ces fameuses sept vaches belles et grasses. Bon, mais après, ce qui l'a troublé plus encore, c'est que les épis maigres ont avalé les épis gros. Donc ça, qu'un végétal mange un végétal, c'est tout de même étrange, et l'on retrouve, disons, ici, disons, ces petits indices qui montrent au pharaon que l'on n'est pas du tout dans le monde de la magie. On a affaire à une puissance supérieure qui est à l'œuvre. On nous parle aussi de la destruction de poissons. Voilà, je lis la phrase hein, dans Yéhézkiel, dans le Haftara. Je colle le poisson de tes rivières sur tes écailles. Tout le poisson de tes rivières se collera sur tes écailles. Et tous ces poissons, collés sur le corps du grand crocodile, vinissent au désert, dévorés par des prédateurs. Et je te lâche au désert, toi et tout le poisson de tes rivières. Ainsi, ces mots annoncent la mort du grand crocodile, c'est-à-dire le pharaon, et les petits poissons, c'est tous ses officiers, tous ceux qui gravitent autour de lui. À côté de cela, on nous parle de 40 ans d'exil contre l'Égypte. Alors, c'est un peu étonnant. Pourquoi 40 ans d'exil supplémentaire à l'Égypte? Eh bien, en fait, là, il y a on peut dire en résumant, en quelques mots, le compte n'est pas soldé entre Hachem et l'Égypte. Je ne rentre pas dans le détail de la démonstration, mais les Chachamim démontrent qu'il devait y avoir 42 ans de famine, et non pas 7. Et en fait, il n'y en a eu que deux, parce que dès que Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, la famine a cessé. La famine n'a pas duré 7 ans, n'a pas duré 14 ans ou plus, ou 40 ans, ou 42 ans. Elle a duré 2 ans. Il y avait donc 40 ans à solder. L'Égypte avait une dette de famine, de destruction, de désolation de 40 ans. Rien n'échappe, bien entendu, à la justice divine. Et cette dette sera payée au moment de l'époque de Yeheskel, un avis. Alors, on peut se poser la question. Pourquoi ce châtiment? Pourquoi cette dette? Elle a été réclamée quelques 1000 ans plus tard, ou plus. Eh bien, cette question se pose. Et de plus, il y a encore une autre question. Bon, je réponds de suite à cette question pour ne pas risquer d'oublier la réponse. C'est qu'en fait, elle est délivrée. Les Haftarot donnent des enseignements qui servent à l'époque et aussi pour toujours, pour nos jours également, parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes et tout n'a pas été consigné, tout ne nous est pas parvenu comme texte du Tanakh. N'a été conservé que ce qui a un sens aussi pour les époques suivantes, pour la nôtre en particulier. Et donc, en particulier, que faut-il retenir de cette haftara? Eh bien, c'est valable pour toutes les époques. On ne peut pas faire confiance aux grandes puissances. L'Égypte était la grande puissance de l'époque. L'Égypte avait garanti Israël, le royaume de Yehuda en fait, hein, qu'elle serait à ses côtés contre la puissance orientale, celle de Nebuchadnezzar, donc Nabucodonosor, qui cherchait à l'envahir. Eh bien, ils n'ont pas été au rendez-vous. Voilà, donc la leçon, c'est attention, les paroles, les promesses, comme on dit dans le fameux proverbe français, les promesses n'engagent que celui qui y croit. Hein. Donc voilà. Donc voilà la première question. La deuxième question, pourquoi les Égyptiens devaient-ils être punis? Après tout, on le sait qu'ils n'étaient que les exécuteurs d'un décret divin. Dans le septième chapitre de Shemot, du livre Shemot, il est bien écrit clairement, et moi, Hachem, j'appesantirai le cœur de Pharaon, et Pharaon ne vous écoutera pas. Dans ces conditions, comment expliquer un châtiment? Mais après tout, c'était prévu. Faut-il le punir pour avoir fait ce que, au fond, il devait faire? Il n'était qu'un exécuteur d'un décret divin. En fait, cela se pose à propos de tous les pharaons de l'histoire, et à notre époque en particulier, à propos des criminels de guerre du XXe siècle notamment. Rabbi Moshe Cordovero pose cette question dans son Tomer Dvora. L'une de ses réponses, c'est que les ennemis avaient certes reçu la permission de frapper. Donc c'est vrai, Pharaon l'avait autorisé. Mais ils ont été bien au-delà de ce qui leur a été permis. Ils ont profité de cette autorisation pour très largement dépasser la mesure permise. Et de plus, on sait bien que même dans le cas où une nation a reçu une mission divine d'en opprimer une autre, après tout, c'est à cause des fautes de cette dernière, certes, mais il reste toujours possible aux individus de ne pas mal agir et de refuser ce destin personnel. On a un exemple, c'est l'exemple d'un gouverneur romain qui refusa le rôle assigné à sa nation, mais enfin pour sa part à lui, bien sûr. Lorsqu'il a compris que Dieu avait décidé de détruire le Beth-Amikdash et de l'utiliser lui pour opérer, il s'est converti au judaïsme. Il s'est converti au judaïsme pour ne pas avoir les mains salies de cette tâche qu'on voulait confier à Rome. Eh bien, il n'était plus de Rome, il devenait juif. Et il a eu le mérite de compter Rabbi Meir parmi ses descendants. On a donc cette perspective allusive, le fameux remèze hein, que l'on questionne régulièrement. Quand il nous dit Le texte. Prends ton bâton et lance-le devant Pharaon, il deviendra serpent. C'est que la sentence divine doit être exécutée par le bourreau choisi. Mais s'il accepte ce rôle avec joie, ou pire encore, s'il profite de cette permission, le bâton, c'est l'allusion au coup donné, pour agir de manière excessive ou démesurée, voire monstrueuse, c'est le serpent. Oui, le bâton devait faire quelque chose, mais il a démultiplié ce qu'on lui a demandé et devient serpent. Un coup, c'est une chose, mais une morsure vénéneuse, c'en est une autre. Le coup seul était permis, pas la morsure vénéneuse. Il a donc outrepassé l'ordre divin et conserve l'entière responsabilité. Voilà le remèze de ce sujet. En soi, un bâton, c'est un bout de bois inoffensif. Il ne fait de mal lorsqu'une main le tient fermement et l'utilise pour frapper. En résumé, la responsabilité morale d'un criminel reste entière. Et voilà pourquoi l'Égypte et Pharaon, au temps de Mosché, mais aussi plus tard sous le règne du pharaon Ofra, lors du solde des 40 ans de dette, et de même tous les pharaons modernes, les criminels de guerre qui accomplissent des monstruosités, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils restent responsables de leurs crimes devant Dieu et devant les hommes. Mais avant que cette offensive se déroule, le royaume de Yéhouda avait contracté une alliance militaire avec l'Égypte. L'Égypte avait promis d'aider les Hébreux contre leurs ennemis si besoin était. Mais lorsque la menace s'est précisée, lorsque leur aide était nécessaire, ils n'ont pas tenu parole. En fait, on nous rappelle ceci, c'est que le pharaon a voulu respecter l'alliance. Il a envoyé des troupes, il a envoyé sa marine pour transporter les troupes vers les côtes d'Israël. Mais les marins se sont dit, nos ancêtres ont été noyés par les Hébreux et nous, on va aider les Hébreux. Ils sont retournés en Égypte, abandonnant le royaume de Yéhouda à son sort, pendant que l'immense armée babylonienne s'avançait contre Yerushalayim. Voilà, donc ça, on est sur le sujet principal de la Haftara de cette semaine. Excusez-moi, je passe encore plusieurs pages pour tenir les délais. Voilà. On peut conclure par ceci. Le prophète annonce qu'il y aura une rédemption, pour faire court. Il y a aussi des versets de consolation au début de cette haftara, et il y a une annonce. Alors, la fin de l'exil, il faut qu'il y ait aussi une reconnaissance par les nations. On se rend compte, et c'est peu connu, on se rend compte qu'il y a eu reconnaissance par les nations de la création d'un État juif, comme on dit. Et ce que l'on sait pas, ou peu, c'est, on connaît tous la fameuse déclaration Balfour, l'Empire britannique, etc., etc. Ça date du 2 novembre 2017. 2 novembre 2017. Mais le 4 juin de la même année, donc quelques mois auparavant, on a eu autre chose qui s'appelle la déclaration Cambon. C'est un diplomate français qui a soutenu de manière publique l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Elle a été rédigée, donc 5 mois avant Balfour. C'était le secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères, le fameux Quai d'Orsay, et elle était adressée, cette déclaration, à Nahum Sokolov, un dirigeant du mouvement sioniste. Elle a été, semble-t-il, écrite dans le contexte du besoin de l'aide de financiers juifs pour l'effort de guerre français à la fin de la Première Guerre mondiale. Voici quelques extraits de cette déclaration Cambon. Vous avez bien voulu m'exposer le projet auquel vous consacrez tous vos efforts et qui a pour objet de développer la colonisation israélite en Palestine. Vous estimez que si les circonstances le permettent et l'indépendance des lieux saints étant assurée d'autre part, ce serait faire œuvre de justice et de réparation que d'aider par la protection des puissances alliées à la renaissance de la nation juive. sur cette terre, d'où le peuple d'Israël fut chassé il y a tant de siècles. Le gouvernement français ne peut qu'éprouver de la sympathie pour votre cause, dont le triomphe est lié à celui des alliés de la Première Guerre mondiale. Et donc, Cambon concluait, je suis heureux de vous donner sous ce pli une telle assurance. Voilà, donc il y a légitimité, même avant la déclaration Balfour, légitimité de fin de l'exil qui a été officiellement reconnue par les nations du monde, par le fameux vote à l'ONU des plus puissants États de la planète de l'époque en 1947. Cependant, les nations du monde n'ont pas toujours persévéré dans ces bonnes dispositions. Pensons aux nombreuses résolutions anti-israéliennes à l'ONU, à l'UNESCO, dans les ONG. Elles ont souvent adopté une approche révisionniste de l'histoire, niant même les liens du peuple juif avec Hebron et Yerushalayim. Et un des pires excès s'est joué le 21 décembre 2017, donc un siècle après la déclaration Balfour, où l'on voit à l'Assemblée générale de l'ONU seuls 9 pays seulement sur 28 qui se sont opposés à une nouvelle résolution condamnant la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais certaines nations reviennent peu à peu dans la reconnaissance de cette légitimité, et en particulier la déclaration du président des États-Unis reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Bref, la leçon à retenir, c'est que le prophète avertissait les Hébreux, pas trop de confiance à l'Égypte. C'était certes une grande puissance, c'était certes une puissance alliée, mais derrière son image de crocodile, il n'y avait qu'un roseau, un fragile roseau, car tout est dans les mains du ciel. Et croire, comme le roi de Yéhouda à l'époque, qu'il pourrait défier les empires orientaux parce qu'il avait le soutien de la grande puissance occidentale de l'époque, l'Égypte, eh bien, c'était une erreur parce que, eh bien, tout simplement, c'était plus un roseau qu'un crocodile. La fin de l'Empire égyptien est la surindication de la libération de tous les exils et de la venue du Mashiach, et que ce que ce soit bientôt, comme dit le prophète, ce jour-là, je relèverai la puissance de la maison d'Israël, bientôt et de nos jours.